Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la Sainte Sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce mardi 8 octobre 2024 sur ces ondes de l'amitié de la fraternité. Dans quelques instants, je vous présenterai le journal d'information et un commentaire politique. Mes collègues vous proposeront ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Des érudits sunnites ont exprimé leur gratitude au leader de la révolution islamique pour son leadership fort et sage qui a conduit à l'exécution de l'opération par le CGRI contre Israël. Frappe israélienne contre le camp de réfugiés de Buraïd à Gaza, 15 Palestiniens ont été tués. Élection présidentielle en Tunisie, le président sortant Kais Saied a été réélu dès le premier tour. C'était les principaux titres, en voici le journal. Pas moins de 3000 érudits sunnites ont écrit au leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei, pour lui exprimer leur gratitude et leur soutien à la mise en œuvre de la récente opération de représailles iranienne contre l'entité sioniste. Dans une lettre adressée au leader de la révolution islamique, lundi 7 octobre, les érudits sunnites ont remercié l'ayatollah Khamenei pour le leadership fort et sage qui a conduit à l'exécution de l'opération par le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, après une période de retenue. L'opération a ciblé le cœur des territoires palestiniens occupés par Israël avec les flammes de la colère de la nation musulmane, soulageant les Palestiniens endeuillés et tous les peuples libres penseurs du monde, ont-ils écrit. L'opération a également renforcé ceux qui luttent pour la libération de la noble Quds, afin qu'ils poursuivent leur combat contre leur égyptionnisme maléfique jusqu'à la fin de l'existence déshonorante de cet enfant illégitime de l'arrogance mondiale, ont-ils encore ajouté. Mardi 1er octobre, la République islamique a lancé des missiles vers des bases militaires et de renseignement israéliennes dans les territoires occupés par Israël dans le cadre de l'opération Vraie Promesse 2. En réponse à l'assassinat par le régime israélien du chef du bureau politique du Hamas Ismail Haniya, du secrétaire général du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah et d'Abbas Nilforushan, un commandant du corps des gardiens de la révolution islamique. La porte-parole du gouvernement iranien, Fatemeh Mohajerani, a déclaré que Téhéran ne renoncerait jamais à la défense de ses intérêts nationaux, mettant en garde Israël contre tout dépassement des limites. Dans un entretien à l'IRNA, lundi 7 octobre, Mme Mohajerani a salué la récente attaque de missiles des forces armées iraniennes contre Israël, l'opération Vraie Promesse 2, laquelle a été une fierté pour la nation iranienne. En sa qualité de chef du Conseil suprême de sécurité nationale, le président iranien Massoud Pezeshkian a donné son accord à l'opération, a-t-elle indiqué, rappelant que le ministre de la Défense jouait également un rôle de premier plan au sein de ce conseil. Au moins 15 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans les raids du régime sioniste sur le camp de réfugiés de Buraïd. Cela intervient alors que la guerre génocidaire américano-israélienne contre le territoire sous blocus entre dans sa deuxième année. Les frappes aériennes israéliennes contre deux sites distincts menées lundi soir sur le camp de réfugiés du Buraïd dans le centre de Gaza ont entraîné la mort en martyr d'au moins 15 Palestiniens, dont 5 enfants et 2 femmes. 25 Palestiniens ont également été blessés. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que le raid israélien sur un habitat du bloc numéro 3 du camp a tué 9 Palestiniens, tandis qu'une attaque sur des tentes abritant des personnes déplacées en a tué 3 autres. Les secouristes poursuivent leurs opérations de recherche et de sauvetage dans la zone, puisque de nombreuses personnes sont piégées sous les décombres, selon les rapports. Selon une autre dépêche, un Palestinien a été tué et plusieurs autres ont été blessés dans une frappe aérienne du régime contre la région de Kirbat al-Adas, située au nord de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Ces attaques interviennent un jour après que les forces israéliennes ont tué au moins 77 personnes dans cette zone assiégée lorsque les avions de guerre israéliens ont bombardé violemment le camp de réfugiés de Jabalia et la ville homonyme située dans le nord de la bande de Gaza. En outre, les frappes aériennes contre la ville de Gaza et à Beit Lahia ont tué 5 autres Palestiniens et en ont blessé de nombreux autres. Les Palestiniens de la bande de Gaza sont confrontés à des attaques incessantes résultant de l'agression militaire israélienne qui a tué au moins 41 909 personnes et en a blessé 97 303 autres, principalement des femmes et des enfants, alors que la guerre entre dans sa deuxième année. Le mouvement de résistance libanaise Hezbollah a lancé un barrage de roquettes sur une base israélienne près du siège de l'agence d'espionnage du régime sioniste le Mossad dans la banlieue de Tel Aviv. Dans le cadre de l'opération Haïbar, lancée la semaine dernière en représailles aux atrocités d'Israël, les combattants du Hezbollah libanais ont annoncé dans un communiqué avoir tiré dans la nuit du 6 au 7 octobre une salve de roquettes contre la base de Glilo, qui abrite l'unité de renseignement militaire V-200 du régime occupant israélien. Plus tôt dans la journée, le Hezbollah a également frappé l'une des principales bases de renseignement israélien, la base de Nimra, ainsi que des rassemblements de véhicules et de personnel de l'armée de l'entité d'occupation derrière le site de Jalal Alam, dans la partie nord des territoires palestiniens occupés par Israël. Par ailleurs, le mouvement de résistance a revendiqué les frappes de roquettes contre les colonies illégales de Carmiel, Kfar Vradim et Beit Hillel, ainsi que d'autres en nord de la ville de Haïfa. De même, un rassemblement de militaires israéliens installé à l'entrée de la localité de Ramesh, sur les hauteurs de Deir al-Kala, dans la localité de Blida, dans le sud du Liban, a également été pris pour cible. Le Hezbollah, par ailleurs, annonça avoir visé le lieu de rassemblement des forces d'occupation à Marun al-Ras et peu après dans les colonies de Shlomi et Anita, dans le sud du Liban. À l'occasion du premier anniversaire de l'opération historique Tempête d'Al-Aqsa, les combattants de la résistance yéménite ont annoncé lundi avoir lancé 2 missiles balistiques, dont un nouveau contre Tel Aviv. Ces frappes font partie de la 5e phase de la campagne de soutien du Yémen au peuple palestinien et libanais à leur mouvement de résistance, annoncé le porte-parole des forces armées du Yémen, le général de brigade Yahya Sari, qui a également précisé que l'opération de frappe de lundi qui visait 2 sites militaires dans la zone occupée de Yaffa, Tel Aviv, avait été couronnée de succès. Dans cette annonce, le responsable yéménite a identifié les projectiles comme étant les missiles balistiques Palestine 2 et Zulfikar. La résistance islamique en Irak a revendiqué une nouvelle attaque de drones contre une cible militaire israélienne dans les territoires palestiniens occupés par Israël. Dans un communiqué publié lundi, les combattants antiterroristes de l'Irak ont annoncé avoir visé une base militaire dans les territoires occupés par Israël au moyen de drones chargés d'explosifs. L'opération intervient en soutien à la résistance des nations palestiniennes et libanaises, ainsi qu'en réponse aux massacres perpétrés par le régime d'Israël contre des civils, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées. Le groupe a déclaré qu'il poursuivra ses attaques contre des installations clés sur les territoires occupés par Israël. En Tunisie, le président sortant, Kais Saied, a remporté l'élection présidentielle du 6 octobre, avec 90,69% des suffrages, a annoncé lundi soir l'instance supérieure indépendante pour les élections, ISIE. Lors d'une conférence de presse au centre médiatique des élections à Tunis, le chef de l'instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouazker, a annoncé la victoire de Kais Saied, qui a bénéficié de 2 438 954 votes favorables parmi un total de 9 753 217 électeurs inscrits sur le registre électoral. Il s'agit des résultats préliminaires du scrutin présidentiel. Dans 3 jours, s'il n'y aura pas de recours, ce résultat sera officiel et définitif. Sinon, les résultats définitifs seront dévoilés au plus tard le 9 novembre prochain. Quant au candidat Ayashi Zamel, il a remporté 7,35% des suffrages. Et Zouhai Marzawi, troisième candidat, avec 1,97%. Le taux de participation générale, selon les résultats préliminaires, est de l'ordre de 28,8%. Parmi un total de 9 753 217 électeurs, quelques 2 808 548 Tunisiens ont voté. Les votes déclarés sont de l'ordre de 2 689 408 et les bulletins annulés de 84 953. De plus, 34 187 bulletins blancs ont été enregistrés. D'après l'ISIE, suite à cette annonce et conformément à l'article 144 du Code électoral, les résultats seront affichés dans ses locaux et publiés sur son site officiel, accompagnés de copies de tous les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote. Sur l'ensemble des 3 jours qui viennent, l'ISIE pourrait anticiper le calendrier électoral et annoncer les résultats définitifs de l'élection présidentielle si jamais aucun recours ne se soumettra aux autorités judiciaires compétentes. Dans le cas contraire, présence de recours, l'instance électorale attendra les différents verdicts et aura un ultimatum jusqu'au 9 novembre pour annoncer officiellement le résultat définitif à la présidentielle. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. La tempête Al-Aqsa a prouvé qu'Israël est une entité fragile et destructible. À l'occasion de l'anniversaire de l'opération Tempête Al-Aqsa, le Hezbollah libanais, tout en saluant l'opération Vraie Promesse 2 menée par l'Iran contre l'ennemi israélien, a annoncé que la décision de la résistance libanaise de se joindre à la bataille contre les occupants était une décision en faveur de la vérité, de la justice et de l'humanité tout entière. Selon le Hezbollah libanais, Israël s'est révélé une entité fragile, incapable de survivre sans le soutien américain. Une année entière s'est écoulée aujourd'hui depuis l'héroïque opération Tempête Al-Aqsa, au cours de laquelle la volonté de la résistance palestinienne a été incarnée face à l'agression, à l'injustice et à l'occupation israélienne qui ont été infligées à ce peuple opprimé depuis 1948. En plus des guerres, des tragédies et des destructions, a souligné le Hezbollah dans son communiqué à l'occasion de l'anniversaire de l'opération Tempête d'Al-Aqsa. Cette opération aura des effets historiques et des résultats stratégiques sur la situation globale dans la région, jusqu'à ce que la justice soit obtenue avec la fin de l'occupation et que le peuple palestinien rétablisse son droit légitime. Libérer la Palestine, de la mer au fleuve, ajoute le Hezbollah. En cette occasion historique, la résistance islamique libanaise a souligné le plein droit du peuple palestinien de résister à l'occupation par tous les moyens pour restaurer ses droits légitimes et mettre fin à l'occupation. Selon le communiqué du Hezbollah, malgré la brutalité et l'agression de l'occupation qui a conduit au martyr de dizaines de milliers de Palestiniens et à la destruction de la bande au Gaza avec une brutalité sans précédent, cette entité injuste et agressive s'est révélée être une entité fragile, incapable de survivre sans le soutien américain. Il n'y a pas de place pour cette entité sioniste temporaire dans notre région et dans notre tissu social, culturel et humanitaire. Elle était et restera une tumeur cancéreuse, agressive et mortelle qu'il faut extirper, même si cela prend du temps, poursuit le communiqué du Hezbollah. La résistance islamique du Liban estime que les États-Unis d'Amérique et leurs alliés et outils dans le monde et dans la région sont partenaires de cette occupation, dans son agression et ses crimes contre les peuples palestiniens et libanais et contre les peuples de toute la région, et qu'ils portent l'entière responsabilité des mortes, des crimes, de l'injustice et des souffrances humaines tragiques. Le Hezbollah a rendu hommage à la détermination du peuple palestinien et à sa vaillante résistance qui mérite la victoire après un an de patience, d'endurance et d'héroïsme, malgré la souffrance et la douleur. Nous rendons hommage à la force et au courage de nos frères combattants sur les fronts de soutien dans le cher Yémen et le Grand Irak, ainsi qu'à la décision historique prise par la République islamique d'Iran de frapper la profondeur de l'entité d'occupation avec des missiles en appui au peuple palestinien et libanais. Cela a de grands effets et conséquences sur la nature de cette confrontation ouverte avec l'ennemi sioniste, réaffirme la résistance libanaise. Le communiqué réitère que la décision du Hezbollah d'ouvrir le front de soutien le 8 octobre en appui au peuple palestinien et à son honorable résistance est une décision en faveur de la vérité, de la justice et de l'humanité tout entière. Il s'agit en même temps d'une décision de défendre le Liban et son peuple, pour laquelle notre résistance et notre peuple ont payé un lourd tribut dans sa structure dirigeante, militaire et matérielle, en plus du déplacement forcé des centaines de milliers de civils, ainsi que des destructions de propriétés et de bâtiments privés, rappelle encore le communiqué du Hezbollah. En fin de compte, le Hezbollah libanais souligne que malgré tous les crimes de l'ennemi sioniste et l'agression illimitée de ce régime, nous avons confiance dans la capacité de notre résistance à repousser l'agression et dans la capacité de notre grand peuple résistant à être patient, inébranlable et à endurer jusqu'à ce que cette détresse disparaisse. Nous voyons la facilité après les difficultés et le soulagement après les épreuves. Le temps des défaites est révolu et Dieu Tout-Puissant est notre grand soutien, conclut le communiqué du Hezbollah libanais.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices, bonjour, merci d'être avec nous. Une date importante pour l'axe de la résistance. Une année s'est écoulée jour pour jour depuis le début de la tempête d'Al-Aqsa, de cette grande opération contre le régime usurpateur sioniste. Et en cet anniversaire de cette grande opération, les différentes factions et groupes de résistance ont réitéré leur soutien à cette opération, mais également à la cause palestinienne. Dans la conjoncture actuelle et dans cette situation, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est déplacé au Liban, puis en Syrie, et a rencontré les autorités libanaises et également syriens, dont Bachar Assad. Nous allons évoquer les dernières évolutions importantes de la région, également la prière du vendredi, un signe de pouvoir et de puissance de l'axe de la résistance de la République islamique d'Iran dans la région. Et on va voir un reportage avant de rentrer dans le vif du sujet. Restez avec nous.
Le président syrien, Bachar el-Assad, a déclaré que l'Iran, par son opération d'envergure, vraie promesse de, avait donné une forte leçon au régime israélien, démontrant que l'axe de la résistance est totalement capable de dissuader l'ennemi. Lors d'une rencontre, samedi 5 octobre, avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en visite à Damas, le président syrien a insisté sur l'importance des relations stratégiques bilatérales pour faire face aux défis et menaces. Par défi, le président syrien entend notamment la poursuite de l'occupation des territoires palestiniens par le régime israélien, mais également les crimes quasi quotidiens de l'entité au Liban, en Palestine et en Syrie. Le droit à la résistance face à toute violation, que ce soit l'occupation, l'agression ou les massacres, est légitime et ne peut être obtenu qu'avec le soutien et la foi de la nation, a précisé Bachar el-Assad, cité par l'agence de presse officielle syrienne Sana. S'adressant au chef de la diplomatie iranienne, le président Assad n'a pas manqué de souligner que l'attaque de missile de mardi était une réponse qui avait donné une leçon forte à l'entité sioniste, lui prouvant que l'axe de la résistance est capable de dissuader l'ennemi et de déjouer ses plans. Au menu des discussions qui ont réuni les deux responsables figurant entre autres la mise en place de stratégies permettant de mettre fin à l'agression israélienne ainsi que l'octroi d'une aide humanitaire aux Libanais. En arrivant samedi matin à Damas, capitale syrienne, lors de la deuxième étape de sa tournée régionale, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré aux journalistes que son voyage à Damas vise à poursuivre ses consultations sur le développement dans la région.
Voilà, je vous présente nos deux invités. Il s'agit d'Imadeddin Amrouni, analyste politique, et Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Merci à vous deux de nous avoir accordé votre temps, Monsieur Amrouni, puisque vous êtes là par image également. Merci d'abord d'avoir accordé votre temps à cette émission. Dans un premier temps, votre point de vue, votre analyse de cette année passée, depuis le 7 octobre 2023, nous sommes le 7 octobre 2024, donc cette grande opération de la tempête d'Al-Aqsa qui a vraiment changé calculs, en fait, tous les calculs depuis une année, cette résistance qui se multiplie, qui se renforce malgré les attaques, les crimes commis par le régime sioniste. Comment interprétez-vous cette année écoulée, M. Amrouni?
Vous savez, dans chaque peuple, dans chaque nation, il y a des jours historiques. Et le 7 octobre 2023, c'est un jour divin, c'est un jour historique pour le peuple palestinien, pour la nation arabe et la nation musulmane. Le jour de la victoire, ce n'est pas simplement une victoire militaire, mais c'est une victoire stratégique. Personne n'attendait l'attaque, le passage des résistants palestiniens dans les territoires occupés de la Palestine. Chose qui n'était pas faite depuis cette décennie. Donc, c'est le jour, si vous voulez, où on a commencé à voir la libération de la Palestine, que cette libération est proche. Personne aussi n'a pensé que la guerre durera une année. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est le 7 octobre 2024. Nous devons d'abord saluer tous les résistants, tous les combattants sur tous les fronts de l'axe de la résistance qui commence à Gaza, qui passe par le sud du Liban, Allô. Par l'Irak, par Sanaa au Yémen, mais aussi par Téhéran en Iran. Mm. Aujourd'hui, le 7 octobre, ce n'est pas simplement une journée, c'est une date fatidique pour la fin de l'entité sioniste. L'imam Sayyid Ali Khamenei, et qu'Allah le protège, a dit que le 7 octobre, c'est l'annonce que Israël a reculé 70 ans derrière. C'est-à-dire qu'on est au point du commencement. Ça veut dire quoi, le point du commencement? C'est-à-dire le point où il n'y avait pas Israël, oui. Où il y avait la Palestine. Donc c'est un moment historique dont la plus grande douleur aussi, parce que les sacrifices donnés par le peuple palestinien, par le peuple libanais, par le peuple yéménite, par le peuple syrien, irakien et le peuple iranien, c'est les plus grands sacrifices. Sacrifice des bébés, sacrifice des femmes, sacrifice de la vie, mais surtout sacrifice des grands commandants militaires, mais surtout un des grands leaders de la nation musulmane, Sayyid Hassan Nasrallah, paix à son âme. Donc, les sacrifices, elles étaient énormes face à une victoire stratégique. Tout le monde, tous les résistants aujourd'hui, tous les peuples de la région voient avec un regard réel un regard réel, raisonnable, la fin d'Israël.
Madame Ideni, j'aimerais avoir votre point de vue sur cette année écoulée, comme je viens de demander également à Monsieur Amrouni, les évolutions, l'axe de la résistance qui se renforce, qui s'est renforcé durant cette année, malgré tous les crimes, toutes les menaces de la part du régime usurpateur sioniste. Comment interprétez-vous cette année écoulée, Madame Ideni?
Un grand bonjour pour la victoire. Effectivement, la tempête d'Al-Aqsa, ça fait un an. C'est une année de victoire qui a porté au monde entier d'abord à nouveau au devant de la scène la question palestinienne, la question palestinienne qu'on voulait enterrer avec des accords d'Abraham, avec des, on n'en parlait plus, avec carrément des contrats, ce qu'on appelle le grand contrat que présentaient Trump et Biden. En fait, maintenant, réellement, la question a été portée sur la scène internationale et elle a mis en évidence la nature horrible, génocidaire de cet État fantoche israélien qui a été créé de toutes pièces par le colonialisme britannique et français, puis américain et soutenu par les Américains. Elle a montré aussi la bravoure du peuple palestinien et sa résilience, sa résistance et sa détermination à libérer son pays, à libérer la Palestine, son pays depuis toujours, à chasser les occupants. Elle a montré aussi à l'ensemble du monde que c'est une affaire d'occupation et de colonisation et ce n'est pas du tout une histoire de religion. Elle a montré aussi, elle a réussi, cette opération a réussi avec tous ses exploits aussi, à bénéficier de la sympathie de tous les peuples du monde. Le fait que l'axe de la résistance a été, dès les premiers moments, Samahat Cheikh Nasrallah d'un côté pour la résistance libanaise, la résistance yéménite et la résistance irakienne ont scellé leurs liens aux côtés de la résistance palestinienne. Ils ont donné aussi la priorité et la primeur à la résistance palestinienne. Le déroulement a montré à quel point les Américains sont aussi génocidaires que les Israéliens par leur soutien indéfectible à chaque fois qu'il était question d'un cessez-le-feu et à chaque fois qu'ils ont fait des vétos contre cela. Alors contre le cessez-le-feu, contre tous les accords. Un autre point qui est très important, toute cette solidarité mondiale aux côtés du peuple palestinien a fait qu'il y a eu aussi beaucoup d'activation des instances, des grandes instances de l'ONU, comme la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, qui se sont activées et qui ont commencé à étudier en profondeur justement le cas du génocide et le caractère génocidaire de cet État fantoche d'Israël qui, malgré les votes et malgré tout, malgré les vétos américains, arrivera quand même un jour à exploser à la tête des Israéliens et des dirigeants israéliens. Je peux dire en plus, alors, malgré tous les crimes commis par les Israéliens contre les civils, contre les enfants, les femmes et les enfants, contre les hôpitaux, contre les journalistes, contre le personnel médical, contre toutes contre les écoles, les universités, en bombardant sans arrêt depuis un an avec un en affamant la population, en coupant l'eau, l'électricité, etc. Ils montrent toute leur dimension d'assassins, de crimes, de criminels et d'assassins. Et c'est aussi, ça montre aussi à quel point d'un autre côté, ça a participé à sceller les liens entre de la résistance, du fait que maintenant, après la Palestine, les Israéliens s'attaquent au Liban avec la même intensité génocidaire, c'est-à-dire ils bombardent les villes, les villages, les hôpitaux, ils s'attaquent au personnel médical. Je voudrais rappeler quand même que c'est les deux derniers crimes, là, le crime des pagers et puis des talkie-walkie d'un côté, et après les crimes odieux, assassinats de grands personnages, de grandes personnalités mondiales, hein, internationales, des grands leaders comme Samahat Cheikh Nasrallah et toute la direction rang premier du Hezbollah, espérant en finir ou arrêter la résistance libanaise. Bon, ben, ceci n'a fait qu'augmenter la détermination de la résistance libanaise aussi à continuer le combat pour libérer à la fois le Liban, la Palestine et s'opposer à cet ennemi horrible. Je voudrais rappeler quand même que la résistance yéménite et la résistance irakienne aussi se sont jointes dès les premiers jours à la résistance palestinienne pour l'épauler contre ce grand criminel qui est l'État fantoche d'Israël. Et Israël ne fait que perdre des points aussi. Ils ont beaucoup perdu sur le plan économique, ils ont beaucoup perdu sur le plan politique, sur le plan militaire. Et en fait, surtout aujourd'hui, les colons ne cherchent qu'à partir, qu'à quitter le pays. Puisque ce n'est plus le pays dont ils rêvaient, qui leur permet de vivre en sécurité et puis sur le dos des Palestiniens. Bon, maintenant, il y a donc un effondrement aussi de la confiance, un effondrement politique aussi à l'intérieur de cet État. Qui n'est pas un État, qui n'est qu'une série de gangsters, donc où on voit aussi des ministres qui sont vraiment des tueurs, hein, qui appellent à utiliser la bombe atomique contre le peuple palestinien, qui appellent à utiliser toutes les armes, à les enterrer vivants, etc. En fait, tout ça, ça a été dévoilé au grand jour. Et ça, ça annonce, hein, la fin certaine et proche de cet État fantoche israélien.
Monsieur Amrouni, il y a aussi un point important qui s'est passé ces derniers jours. C'était effectivement la prière du vendredi. On a parlé avec vous, mais j'aimerais qu'on revienne sur le sujet avec la prière du vendredi, avec la présence du leader de la révolution islamique, mais en même temps, la visite du ministre iranien des Affaires étrangères dans la conjoncture actuelle, dans cette situation compliquée au Liban et ensuite en Syrie. Donc ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que l'axe de la résistance, dont l'Iran, la Syrie, le Liban, ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur des bombardements, ils n'ont pas peur des crimes, ils n'ont pas peur des menaces,
oui,
de part et d'autre.
Bonjour,
Madame Idani, bonjour. Est-ce que vous m'entendez?
Vous m'entendez?
Madame Idani? Alors, je vais continuer avec Monsieur Amrouni. Voilà, Monsieur Amrouni, j'attends votre réponse et votre analyse en ce qui concerne le point que je viens d'aborder.
Oui, devant les actions, les massacres commis par l'entité sioniste, ça montre que la peur, elle est dans le camp sioniste, elle est dans le camp américain. C'est pour cette raison qu'ils n'ont que la possibilité de massacrer les enfants, les civils, les femmes, et détruire les maisons, les hôpitaux, les églises et les mosquées. Donc c'est un signe que la peur, elle est chez les sionistes. La peur, elle est dans le camp occidental. La prière de vendredi, elle a montré deux choses à Téhéran. D'abord, la présence du peuple iranien. On revient toujours à ce peuple héroïque, à ce peuple qui défend d'abord son islam,
Allô?
D'abord son unité nationale, et surtout les résistants palestiniens et libanais et les résistants du Front de la libération de la Palestine. Dans ce sens-là, la présence iranienne, la présence du peuple, elle était magnifique, elle était déterminante. Deuxièmement, le guide suprême de la révolution islamique, Sayyid Ali Khamenei, et qu'Allah le protège, en sa personne, en sa présence physique, est un grand signal pour l'ennemi que le navire de la résistance, il a toujours un commandant en chef, il a toujours un guide, il existe toujours, il est vivant. Et donc, cette prière, c'est une prière de défiance face à l'ennemi américain. Lorsqu'il a dit, Sayyid Ali Khamenei, qu'Allah le protège, il a dit, nous savons qu'il y a une seule chambre qui dirige cette guerre, c'est-à-dire les Américains. Il ne l'a pas dit, mais il a montré que c'est les Américains qui ont assassiné Sayyid Hassan Nasrallah, qui ont assassiné les grands commandants de Hezbollah, qui eux, et eux seuls, qui dirigent cette guerre avec, bien sûr, l'armée des sionistes. Donc, la prière de vendredi, elle était très importante. Deuxième événement important, c'est le voyage du ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, au Liban d'abord, sous les bombes. La banlieue sud, elle était sous les bombes, et le ministre des Affaires étrangères iranien, il était à Beyrouth, pour montrer la solidarité du peuple iranien, de l'État iranien, avec le peuple libanais, avec l'État libanais, avec la résistance libanaise. Et après, la rencontre avec le président syrien, elle est très importante, car sans la Syrie, la résistance libanaise ne pourra pas affronter l'ennemi sioniste. Donc, l'aide de la Syrie, l'importance géopolitique de la Syrie, l'importance de la personne du président Bachar el-Assad, fait que l'Iran et la Syrie, ensemble, confirment qu'ils soutiendront la résistance palestinienne, la résistance libanaise face à l'hégémonie américaine dans la région et face au criminel Netanyahou. Donc on est dans une phase difficile, on a beaucoup de pertes, des pertes précieuses, mais on n'est pas à genoux. Alors que l'ennemi sioniste, depuis le 7 octobre 2023, il est à genoux. C'est lui qui reçoit les coups, c'est lui qui a reçu aujourd'hui les missiles iraniens. Depuis 40 ans, l'Iran ne voulait pas entrer en guerre directe avec l'entité sioniste. Aujourd'hui, il y a 400 missiles qui sont arrivés sur Israël. 200 missiles qui sont arrivés à mi-avril, 200 missiles plus importants, dont 85 des missiles supersoniques qui sont arrivés sur 3 bases militaires israéliennes. Donc l'Iran est rentré en guerre contre l'entité sioniste et en affrontation directe. Et donc celui qui est à genoux aujourd'hui, c'est l'ennemi sioniste. Les Américains sont venus secourir leur enfant chéri, cet enfant criminel, cet enfant sauvage. Et donc les Américains, ils viennent pour détruire la résistance libanaise parce qu'ils pensent que le cœur de l'axe de la résistance se trouve au Liban. Et donc, si on arrive à arrêter le cœur, on arrêtera le corps du front de la résistance dans la région.
Voilà, merci. Je remercie Madedine Amrouni et Aïssa Armidani pour leur analyse. Merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
L'histoire des sciences en Iran. Bienvenue dans un autre numéro de notre émission L'histoire de la science en Iran.
Nous consacrons cet épisode à la grande bibliothèque Nezamiye d'Ispahan, ville historique et touristique située dans le centre de l'Iran. La bibliothèque Nezamiye d'Ispahan, un monument du XIe siècle. Le nom de la bibliothèque Nezamiye d'Ispahan est étroitement associé au titre attribué aux écoles scientifiques qui ont été fondées pendant la dynastie Seljoukide au milieu du XIe siècle. À l'époque d'Alparslan, 2029 à 1072, et de son fils Malek Shah, 2055 à 1092, le célèbre ministre Nezam al-Molk, 2018 à 1092, institue dans quelques provinces iraniennes des écoles appelées écoles Nezamiye. Celles-ci ne sont certes pas les plus anciennes écoles de l'Iran, mais elles se démarquent par le rôle indéniable qu'elles ont joué dans le développement systématique et programmé d'un réseau d'écoles supérieures iraniennes. La date de la fondation de l'école Nezamiye à Ispahan n'est pas connue, mais on estime qu'elle remonte aux années 1060-1070, avant la mort de Sadreddin Khojandi, homme de lettres et chef de la célèbre famille des Khojand, qui avait assumé à cette époque-là la responsabilité des affaires de cette école, d'où vient ainsi le titre Sadrigué, attribué à l'école d'Ispahan. Cette école se situe près de la grande mosquée d'Ispahan, Masjid Jame, dans un quartier appelé Dardasht. Nezam al-Molk avait consacré une partie de ses revenus personnels, ainsi qu'un budget du gouvernement et des dotations de marchands, de hammams publics, de magasins et de caravanserais en vue de faire construire le bâtiment de l'école, de l'équiper convenablement et de rémunérer les étudiants pensionnaires et les externes de l'école, ainsi que les enseignants, les bibliothécaires et les autres salariés. Les étudiants de cette école avaient tous des bureaux privatifs, bien aménagés. Par ailleurs, les enseignants étaient sélectionnés parmi les savants les plus renommés de l'époque. Elle bénéficiait aussi de l'expertise de bibliothécaires réputés en matière d'organisation, de gestion et de classification des livres. La bibliothèque de cette école recelait un grand nombre d'ouvrages authentiques et précieux, écrits par les pionniers en littérature, en sciences et en religion. Après la mort de Nezam al-Molk en 1092, la direction de l'école a été confiée à son fils aîné, et puis au ministre successeur, jusqu'à la venue de l'Empire mongol au début du XIIIe siècle, où le célèbre ministre Nasiruddin Tusi réussit à établir un nouvel ordre sur l'ensemble des écoles. L'école Nezamiye d'Ispahan, celle de Bagdad et celle de Neshabur deviennent alors des centres scientifiques renommés. La bibliothèque de l'école Nezamiye d'Ispahan est parmi les plus célèbres en Iran. La ville d'Ispahan a été la capitale culturelle du pays sous le règne de trois grandes dynasties bouyides, seljoukides et safavides. Tout au long de ces périodes, à l'invitation du roi et de son grand vizir, les figures scientifiques, religieuses ou littéraires sont venues s'installer à Ispahan, et cela a participé à la prospérité de cette ville dans tous les domaines. Citons par exemple la famille Khojand, qui a quitté sa ville de Merv, aujourd'hui au Turkménistan, pour aller enseigner à l'école d'Ispahan à la demande de Nezam al-Molk. En conséquence de ces transferts culturels entre Ispahan et d'autres villes, de multiples ouvrages ont été publiés à Ispahan. Plus tard, durant la dynastie des Safavides, de 16e au 18e siècle, les savants chiites d'Irak et de Bahreïn ont poursuivi leurs études et recherches au sein de cette ville. De plus, les chercheurs et étudiants des autres territoires ont bénéficié des soutiens financiers des souverains. À titre d'exemple, Saheb ibn Abbad, le grand vizir de l'Empire bouyide, pendant les années 976-995, fit preuve d'un grand intérêt pour les évolutions culturelles, littéraires et scientifiques et fut engagé dans des activités de mécénat auprès de savants et écrivains des pays voisins. Les successeurs de ces savants s'engageaient souvent à conserver l'héritage spirituel et scriptural de leurs aïeuls. Ainsi, les bibliothèques privées ont-elles été généralement préservées et restaurées pendant plusieurs décennies et ouvertes aux érudits? La bibliothèque de la famille des Khojand, dont le chef était le célèbre Sadreddin Khojandi, devint très tôt une bibliothèque publique. Les rois et les gouvernants iraniens accordaient également une attention à la tradition de dotation pieuse, Varf, et Domon, en vue de faire bâtir de nombreuses mosquées et écoles, qui disposaient à leur tour de bibliothèques plus ou moins importantes. Néanmoins, les bibliothèques d'Ispahan ont été à plusieurs reprises exposées au pillage et aux incendies à cause des guerres diverses entre les gouvernements régionaux ou à la suite d'invasions étrangères. Les guerres religieuses déclenchées au Xe siècle, notamment la querelle des chiites et des sunnites sous le règne de la dynastie safavide, ont causé la disparition totale ou partielle de nombre d'entre elles. De même, l'apparition d'un gouvernement rigoriste et peu ouvert aux aspirations libératrices obligea un grand nombre de poètes, savants et artistes à quitter le pays pour entamer une nouvelle vie plus libre dans des territoires comme l'Inde, l'Asie mineure et la Transoxiane. De multiples ouvrages ont été publiés à Ispahan suite au transfert culturel. L'invasion afghane et la prise d'Ispahan à l'époque des Safavides, ainsi que l'atmosphère de terreur et de l'insécurité qui en découla, conduisit des savants en religion à se réfugier dans les autres centres religieux de la région, particulièrement en Irak. Ils emmenèrent parfois avec eux une grande partie de leur bibliothèque personnelle. Selon des documents historiques, la grande bibliothèque de l'école royale de Charbagh, qui détenait des rares manuscrits, a été déplacée au sous-sol de l'école pour être protégée des pillages, mais a été ruinée presque totalement par les termites et l'humidité. Une autre raison de la disparition des bibliothèques d'Ispahan réside dans le fait que les collections familiales étaient éparpillées lors de successions et étaient parfois mises en vente par les descendants. L'exemple le plus célèbre est la bibliothèque de la famille Majlisi. Mohammad Borel Majlisi, surnommé Cheikh al-Islam, disposait d'une grande bibliothèque dont il avait rassemblé les ouvrages pendant de longues années en vue d'écrire son œuvre monumentale, un recueil des hadiths chiites. Les maires des Lumières, Bihar el-Anwar, il envoyait des messages à destination des territoires lointains pour demander au roi de lui envoyer, en échange de cadeaux, les ouvrages dont il avait besoin. Il payait des scribes pour écrire à la main selon les archives anciennes, qui risquaient d'être détruites tôt ou tard. Ainsi, il a restauré et préservé les livres d'autres bibliothèques personnelles comme celle de son père ou d'autres savants parmi ses contemporains. Mais à sa mort, cette grande collection de livres fut dispersée. Disparition des livres anciens. Malgré le déclin de la ville d'Ispahan, suite à l'arrivée au pouvoir de la dynastie des Qajars, l'école Nizamiyya d'Ispahan demeura le centre scientifique et religieux le plus ancien et le plus éminent de cette ville. Les livres de sa bibliothèque étaient pour la plupart des exemples originaux d'ouvrages écrits par de grands savants de l'époque seljoukide. Et elle est restée fréquentée par de nombreux enseignants et étudiants. Il est à noter qu'à l'époque de l'arrivée de l'islam en Iran, en 1634, l'Iran comptait plus de 600 bibliothèques qui attiraient un grand nombre de savants et de philosophes de nombreux pays et régions reculées, dont l'Andalousie de l'époque venue en Iran pour bénéficier des bibliothèques et des centres culturels du pays. La bibliothèque d'Abalwafa ibn Salmeh, dans la province de Hamadan, comptait parmi les bibliothèques les plus anciennes de l'Iran après l'islam. Elle conservait d'importants ouvrages évoquant les problèmes courants de l'époque et les événements historiques, notamment ceux du Xe siècle. La bibliothèque de l'Observatoire de Mararé, construite grâce aux efforts de Khodje Nasiruddin Tusi, rassemblait également des trésors bibliographiques iraniens. Outre les ouvrages scientifiques, la bibliothèque qui avoisine l'Observatoire contenait également certains manuscrits d'ouvrages remarquables provenant de nombreuses villes du monde islamique de l'époque, dont Bagdad, Damas et la région du Khorasan.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.